Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Pour trouver le chemin vers Dieu, l'on peut prier, crier vers lui, lire des ouvrages de spiritualité ou de théologie, mais l'on peut aussi philosopher. Parmi ces philosophes, l'un d'eux est un penseur, très lu par les chrétiens, un penseur de la relation, un philosophe qui postule que le visage de l'autre est comme le principal événement de toute vie, une philosophie, pardon, de la relation, j'ai nommé Emmanuel Lévinas. Voilà, ce matin, à la découverte d'Emmanuel Lévinas avec Daniel Vigne, que vous connaissez, qui fait des chroniques à cette antenne, philosophe, agrégé, docteur en philosophie, professeur de théologie à l'Institut catholique de Toulouse et diacre. Bonjour Daniel.
Bonjour Emmanuel.
Alors, émission défi pour vous comme pour moi, pour essayer donc de parler de ce philosophe. Voilà, en général, l'émission du lundi, c'est une émission plus de spiritualité, mais en effet, il y a d'autres manières d'approcher Dieu, et entre autres, en se posant des questions, et donc en se mettant un peu à l'école d'un certain nombre de philosophes. Alors, dans cette première partie, on va partir à la découverte de cet homme. Emmanuel Lévinas, il faut le dire juste en introduction, c'est donc un philosophe qui est né en janvier 1906 en Lituanie, à Kovno, et qui est né, déjà c'est un intellectuel juif, enfin il n'est pas né intellectuel juif, mais il est né dans une famille baignée dans un lieu qui était, semble-t-il, un des hauts lieux de l'intellectualité juive de l'époque. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être à quoi ressemble son environnement immédiat quand il naît, ce philosophe?
Oui, une famille pieuse, une famille studieuse aussi, puisque dans le judaïsme, l'étude de la Torah est pour ainsi dire au centre de la vie religieuse. Il apprend donc l'hébreu, vous l'avez dit, il est né en Lituanie. Sa famille fréquente de grands talmudistes, de grands commentateurs de la Bible et de la Torah, de la loi juive. Il va être cependant rapidement touché par tous les événements qui vont secouer l'Europe dans ce siècle, à commencer par la Première Guerre mondiale, puisque en 14, il est obligé de fuir l'avancée des armées allemandes.
Donc sa famille fuit et va se réfugier donc en Russie, à Kharkov.
C'est ça, en Ukraine, où il demeure à peu près 6 ans. Et comme c'est le cas de beaucoup de familles juives au XXe siècle, n'est-ce pas, d'autres exils vont suivre celui-là. Il se déplace d'abord donc en Ukraine, comme je le disais, puis il retourne en Lituanie en 1920, puis lui quitte la Lituanie et se rend en France. Nous sommes en 1923, il n'a que 18 ans.
Alors, il faut dire, donc peut-être pour préciser, donc son père donc est libraire, c'est-à-dire que c'est quand même un milieu intellectuel.
Tout à fait.
Voilà, j'avais lu aussi que son entrée au lycée à l'époque, donc à Kharkov, il y avait un numerus clausus, seulement 5 juifs étaient admis au lycée, donc Emmanuel Lévinas est admis au lycée, et il dit de cette période, l'entrée au lycée est célébrée à la maison comme une véritable fête de famille et une promotion comme un doctorat presque, donc on voit un peu l'ambiance quand même dans laquelle grandit ce garçon.
Oui, et on devine ses qualités intellectuelles exceptionnelles, puisque s'il est choisi de façon très, très, très sélective, c'est qu'il en a c'est qu'il a des talents.
Alors quand il arrive en France, en fait, c'est qu'il fréquente il fréquente l'université française, il arrive donc à Strasbourg.
Oui.
Et il rentre à l'ENS, c'est ça?
Alors, attendez, là vous allez un petit peu vite, parce que il faut insister sur un certain nombre d'influences qui vont s'exercer sur lui pendant sa formation en philosophie. Il va être un passeur dans tous les sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui, ayant traversé l'Europe d'est en ouest, géographiquement, la traverse aussi intellectuellement et spirituellement, philosophiquement. D'où son intérêt pour des philosophes allemands, notamment, bien sûr, Husserl et Heidegger, dont il va être l'auditeur et même, dans une certaine mesure, le disciple, pendant les années dont nous parlons, jusque 1930 à peu près.
Donc quand il est en France?
Il est en France, mais il séjourne en Allemagne.
Il fait des sauts en Allemagne.
Voilà, il y passe plusieurs semestres d'études. Vous devinez au passage sa capacité à assimiler des langues différentes. Il parle russe, il parle hébreu, il parle lituanien, il parle français, il parle allemand. Et tout ça n'est pas simplement, comment dire, un prodige d'érudition, ni même d'habileté intellectuelle, mais quelque chose comme une synthèse qui se dessine et qui va donner naissance peu à peu à une pensée tout à fait originale. C'est-à-dire que Lévinas n'est pas un, je le disais, n'est pas un érudit, n'est pas un philosophe universitaire capable de discourir sur tous les sujets. Ce qui l'intéresse, c'est d'aller au fond des choses. Les auteurs, les philosophes qu'il fréquente, il va, on va le dire tout à l'heure, prendre ses distances par rapport à eux. Et c'est une espèce de creuset, si je puis prendre cette image, quelque chose d'alchimique, hein, où s'élabore une pensée qui est de l'or, si je puis dire. Hein. Il est en train de transmuer tout ce qu'il apprend, tout ce qu'il reçoit, en quelque chose d'unique et d'original.
Alors oui, donc c'est pas l'ENS, mais quand il est à Strasbourg, donc il est à l'Institut de philosophie de Strasbourg,
voilà,
si je me conseille.
Voilà, exactement.
Voilà. Et donc il étudie donc un certain nombre de philosophes, vous les avez cités, et entre autres donc Husserl. Alors est-ce que vous pouvez nous faire un Husserl pour les nuls, et entre autres ce qu'on appelle la phénoménologie.
C'est un gros mot, phénoménologie.
Husserl,
hein,
est semble-t-il un des pères de cette
Oui,
cette
vraiment,
manière de philosophie.
Vraiment. Il est considéré comme tel, même si le mot avait déjà été utilisé par Hegel. La phénoménologie de Husserl, c'est une démarche philosophique dont on n'a pas le temps de parler ici, tout à fait particulière, elle aussi originale, dont Lévinas va bénéficier, mais qu'il va finalement traverser, si vous voulez. Il va en retenir le meilleur, c'est-à-dire une attention, Husserl disait, une attention aux choses mêmes. Sous-entendu, et non pas aux idées qui représentent les choses. Donc il y a un retour vers une sorte d'écoute, de disponibilité à ce qui est et à la façon dont nous ressentons ce qui est.
Bon. Voilà, et courant, moi j'ai préparé un peu, courant oui. philosophique qui se concentre sur l'étude des phénomènes et de l'expérience vécue.
Eh bien voyez, nous retrouvons tout à fait.
En tout cas c'est une manière de philosophie,
oui, mais
à partir du réel, c'est ça peut-être davantage ou
Oui,
non
mais Husserl, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est même assez compliqué. C'est un des philosophes, c'est pas un des plus philosophes les plus faciles certainement. Et bon, il a eu pour secrétaire et disciple Edith Stein, donc qui sera canonisé. Husserl se tourne vers, comme vous venez de le dire, l'expérience, le vécu, les choses mêmes, mais avec un effort d'analyse, de compréhension de cette expérience qui apparaît sans doute à Lévinas comme passant à côté de quelque chose qui lui tient très à cœur. Et disons-le tout de suite, ce vers quoi Lévinas va aller, et qui le distingue de Husserl, c'est que ce à quoi il faut faire attention pour Lévinas, c'est avant tout l'autre homme. Non pas le réel au sens large, non pas l'existence, non pas la réalité, mais ce point brûlant, ce point si énigmatique de la réalité qu'est le visage d'autrui. Voilà ce qui va être la brèche dans laquelle sa pensée va s'engouffrer, mais il faut avancer dans le temps ici et dire ce qui a déclenché plus spécialement, n'est-ce pas, l'évolution de cette pensée
en tout cas,
dans cette direction.
En tout cas, on entrevoit que c'est une philosophie, même si elle est difficile, qui peut parler à tout le monde parce que ça part d'une expérience.
Oui.
Voilà, ça fait écho un peu aussi de.
Alors vous dites expérience et je vais mettre un mot qui fait écho à celui-là. C'est le mot de souffrance. Donc Lévinas va en 1939 être mobilisé et rapidement fait prisonnier, enfermé en Allemagne dans un stalag, un camp de prisonniers de guerre. Ce n'est pas un camp de concentration ni d'extermination. Son statut de soldat français lui a sauvé la vie, on pourrait dire.
Donc il a été naturalisé en 1931, et puis donc il était interprète russe, c'est ça ?
Tout à fait.
Dans l'armée française. Donc tout ça fait qu'il est un peu protégé.
Il est un peu protégé, mais en même temps, comme vous l'imaginez, il est au plus près de... eh bien de l'inhumanité, de la barbarie de ce régime totalitaire, de cette idéologie nazie. Et il a, pendant des années, l'occasion de réfléchir, puisqu'il est philosophe dans l'âme. Et dans la souffrance, je parlais tout à l'heure d'un creuset, si vous voulez, mais c'est vraiment au feu de cette épreuve terrible, parce qu'il pouvait se dire qu'il serait exécuté d'un jour à l'autre, ça n'a pas eu lieu, mais c'était évidemment possible. Il a médité sur les rapports humains, étant évidemment en compagnie de gens qui étaient traités de façon inhumaine, surtout dans son cas, il avait la double pénalité, si j'ose dire, d'être ennemi et d'être juif. Et puis en face de lui, il avait ses bourreaux, ses soldats, qui étaient des hommes, et en qui on pourrait dire la flamme, le mystère, l'identité d'être homme ne s'est jamais totalement éteinte. On ne peut pas devenir totalement inhumain. Et donc, c'est vraiment dans ce face-à-face avec l'inhumain, avec l'énigme et le mystère de ce qui fait la différence entre un homme et un non-homme, que sa pensée va être propulsée, si j'ose dire, vers des horizons tout à fait personnels, tout à fait originaux.
Alors, il faut dire aussi donc que sa famille, qui est restée en Lituanie, est massacrée.
Oui.
Voilà. Lévinas, entre-temps, avant la guerre, s'est marié. Il a une femme donc, et une fille qui ont réussi donc, à se réfugier chez les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, près d'Orléans.
Tout à fait, qui ont été sauvées.
Sont préservées.
Grâce à des chrétiens, il faut le dire. Et le dialogue que vous avez évoqué en introduction, qui est fort entre Lévinas et les chrétiens, là aussi trouve un certain fondement dans l'histoire de ce personnage.
Alors, est-ce qu'on peut dire que tout ce qui était en germe et toute cette longue période d'études que vous nous avez décrite, en fait, avant la guerre, puis cette expérience de la guerre, après, la suite de la vie d'Emmanuel Lévinas n'est comme un déploiement, en fait, de toute sa pensée, ou est-ce qu'il y a des choses particulières à noter sur cette période d'après-guerre ?
Alors, on ne résume pas une carrière en quelques minutes.
Surtout, c'est la difficulté de votre exercice.
Elle a été longue. Il a vécu 90 ans. Il est mort le 24 décembre 1995, la veille de Noël. Il portait le nom d'Emmanuel. Là aussi, les chrétiens peut-être seront sensibles à. C'était la fête de Hanouka juive, mais c'est vrai que ce sens, comment dire. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu en nous, le divin dans l'homme, l'infini dans le visage, ou à travers le visage, ou au-delà du visage, mais lié au visage. Tout ça sont des idées qui rapprochent Lévinas de ce que nous appellerions l'incarnation. Il n'est pas chrétien, il ne l'était pas ni à moitié, ni de façon cachée, mais c'est vrai que entre les chrétiens et Lévinas, il y a comme un lien intime qui passe par le mystère de l'autre et de l'intime lien entre le divin et l'humain. Alors de fait, entre sa sortie de sa fin de captivité en 45 et puis 50 ans plus tard, cette mort, il y a une carrière philosophique qui s'est pas vraiment enfermé dans le système universitaire. C'est seulement sur le tard qu'il est vraiment entré à l'université.
Il fit même professeur à la Sorbonne.
Tout à fait.
De 73 à 76.
Mais tardivement, comme vous le voyez. Hein. Oui. Il avait presque 70 ans. Donc, une carrière libre dans laquelle il faut signaler aussi qu'il était très impliqué dans le judaïsme, n'est-ce pas ? Il dirigeait une école juive. Il était très attaché aussi à la renaissance de l'État d'Israël, tout en n'étant pas, disons, sioniste au sens agressif du terme, mais il a eu très à cœur cette renaissance et toutes ces implications éthiques en particulier. Voilà, ça c'est un peu un horizon politique. Vous voyez, on a évoqué l'horizon religieux, l'horizon politique, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc, pour finir, eh bien, une bonne vingtaine de grands ouvrages. Le plus célèbre d'entre eux s'appelle « Totalité et infini ». Il le publie en 1961.
C'est le titre de sa thèse de doctorat.
Exactement. Et c'est un titre très philosophique, il faudra peut-être l'expliquer tout à l'heure, mais en même temps, quand on le comprend, c'est assez clair. Et puis beaucoup d'autres livres. Peut-être il faut signaler qu'il a aussi écrit, un peu à part de son œuvre philosophique, des commentaires du Talmud. Il a été à l'école d'un mystérieux maître qui s'appelait Monsieur Chouchani et dont il a reçu aussi toute cette finesse d'analyse de la loi juive comprise et interprétée par le Talmud. Mais ce sont comme deux volets qui, si vous voulez, ne se superposent pas. L'aspect philosophique et l'aspect talmudique, juif et judaïque, si je puis dire. Bien que, évidemment, si on creuse, on voit les passerelles entre les deux aspects de son œuvre.
On va voir ça. En tout cas, un penseur original. On va développer, vous allez développer un peu plus sa pensée après, presque contemporain, mort en 1995, et donc qui, comment dire, et puis la suite, on la découvrira après cette première pause musicale.
Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission ce matin, donc à la découverte de ce philosophe Emmanuel Lévinas avec Daniel Vigne, agrégé et docteur en philosophie, professeur de théologie à l'Institut catholique de Toulouse, et qui nous fait l'amitié donc de nous aider à comprendre la pensée de ce philosophe singulier. Alors, on a décrit à gros traits donc la vie de ce juif devenu français, philosophe, enfin intellectuel de haut vol, et donc ayant fait l'expérience du mal, j'allais dire radical, en tout cas de la Seconde Guerre mondiale et du nazisme, et donc mort en 1995, pour résumer à très très gros traits. Et vous nous disiez donc que le grand trait de sa philosophie, c'est donc une philosophie de l'éthique de la rencontre, si on doit résumer. J'avais noté cette phrase peut-être pour commencer à entrer dans sa pensée. Rencontrer un homme, c'est être tenu en éveil par une énigme. Ça, tout le monde peut d'une certaine manière comprendre. Mmh. Ou comment faut-il le comprendre, peut-être pour introduire donc ce qu'on appelle cette philosophie de l'éthique de la relation.
Oui, alors relation et rencontre sont des mots qu'il n'emploie pas tellement. Si vous voulez, il se tient au seuil de ce qui sera ensuite rencontre ou relation au sens actif, au sens effectif du terme. Quand je rencontre quelqu'un, quelquefois d'ailleurs c'est sur le registre de l'affrontement, c'est déjà que nous sommes en relation. Mais ce à quoi Lévinas veut nous éveiller, veut nous rendre attentifs, c'est à l'énigme. Votre belle citation le disait. Avant même que je sois en relation avec l'autre, il y a l'autre. Et sur lequel je ne dois pas, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de mettre la main de quelque façon que ce soit, comme si je savais déjà qui il était. L'autre est avant tout pour moi une question, un appel.
Un mystère.
Une invitation à m'arrêter. Pas trop vite la relation, pas trop vite la rencontre, vous voyez, comme si nous allions partir bras dessus, ou d'ailleurs dans un pugilat, parce que nous savons que l'autre est un ennemi invétéré, n'est-ce pas, et inconciliable avec nous. Qu'est-ce que je sais de l'autre? Qu'est-ce que l'autre? Voilà la grande interrogation, si vous voulez, qui sous-tend cette démarche. En forme de point d'interrogation, en forme d'ouverture. Et là, on s'arrête. Et Lévinas nous donne à penser, nous oblige, nous force presque à penser l'autre comme énigme, mystère, comme insaisissable. Et puis, lié à cette attention au sens premier du terme, c'est-à-dire j'observe, je m'interroge, comme je viens de le dire, je regarde, il y a peut-être un deuxième sens du mot « attention ». En français, c'est très beau d'ailleurs, quand on dit « avoir des attentions pour quelqu'un »,« être attentionné envers quelqu'un », là s'ouvre un espace ou un horizon moral. C'est-à-dire, l'autre n'est pas seulement un objet que j'observe, évidemment. Il est une personne à qui je dois du respect, des égards, et alors je fais encore un pas de plus, si vous voulez. La grande idée de Lévinas, c'est que de cet autre qui est si mystérieux, que je dois respecter, eh bien je suis aussi responsable. Voilà. On passe de l'attention à l'autre comme mystère à la responsabilité pour l'autre comme devoir. C'est-à-dire, l'autre n'est pas devant moi.
C'est-à-dire, l'autre est un mystère. Oui. Il me fait face. Oui. Fondamentalement, j'ai pas en fait le droit de mettre la main sur lui, c'est ça?
Oui.
Mais en plus de ça, j'ai une forme de responsabilité à son égard.
C'est comme un appel d'air, si vous voulez. Quand j'entre dans le mystère de l'autre, je suis déplacé. Je ne suis plus tout à fait moi-même. Je ne suis plus moi tel que j'étais avant d'être attentif à lui. Et ce qui m'aspire en quelque sorte vers lui, eh bien, c'est c'est indicible, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que je me dois à lui. Je lui dois quelque chose, mais est-ce que c'est quelque chose ? Est-ce que c'est une chose ? C'est difficile à dire.
C'est un mystère qui m'oblige d'une certaine manière.
Oui, qui m'oblige. Je suis dans une forme d'obligation. On dit noblesse oblige, c'est un proverbe, mais ici c'est la noblesse de l'autre qui m'oblige.
Alors je vais citer une citation. L'expérience irréductible et ultime de la relation me paraît être ailleurs, non pas dans la synthèse, mais dans le face-à-face des humains, dans la socialité, en sa signification morale. Mais il faut comprendre que la moralité ne vient pas comme une couche secondaire au-dessus d'une réflexion abstraite sur la totalité et ses dangers. La morale a une portée indépendante et préliminaire. La citation est un peu compliquée, mais vous allez l'éclairer. La philosophie première est une éthique. Alors quand il dit que la philosophie première est une éthique, c'est quoi justement ?
C'est un coup de canon, c'est un tremblement de terre dans le monde de philosophique. Dire la philosophie première, c'est l'éthique, c'est renversant. Pourquoi ? Parce que depuis Aristote, la philosophie première, je vous donne la définition, c'est la métaphysique, c'est-à-dire la science de l'être en tant qu'être. Bon, c'est un peu abstrait, vous allez me dire. C'est l'ontologie, c'est encore plus abstrait, mais bref, c'est une attention à l'être. Or, ce qui décentre complètement, ce qui révolutionne cette perspective, c'est la primauté chez Lévinas, de l'autre sur l'être. On va pas se fonder sur l'être, sur une question de type métaphysique. Mais on va partir d'une question de type éthique. L'autre m'interroge, m'appelle.
C'est en philosophe, entre guillemets, pas en réfléchissant le monde et donc la réalité de l'être, c'est
oui.
Ce que vous décrivez. Hein.
Et dans une réflexion dans laquelle l'autre arrive en dernier. Vous voyez, on va poser d'abord l'être des choses, l'être du monde, les lois d'organisation du monde, puis, je ne sais pas, on pourrait passer en revue les minéraux, les végétaux, les animaux, arriver à l'homme.
Là, la primauté, c'est cette relation mystérieuse.
Et puis, parmi les hommes, il y aurait le problème politique ou la relation à l'autre homme comme venant en dernier. Là, elle vient en premier, c'est l'immédiat. C'est ça qu'il s'agit de penser pour être homme. Parce que si je me... Comment dire ? Si je retarde... Ou si je reporte et je considère comme plus ou moins secondaire cet aspect-là de mon existence, eh bien je cours le risque énorme de passer à côté de ce qui me fait homme. Parce que ce qui me fait homme, c'est d'être en relation avec d'autres hommes. Vous sentez ce que ça a quelque part de révolutionnaire. Et en même temps, Lévinas était un homme très doux, très, très paisible, n'est-ce pas, au visage, parce qu'il en avait un, d'une grande humanité. Il n'arrive pas du tout comme un pourfendeur de doctrine, à la manière de Nietzsche, qui viendrait comme ça supplanter tout ce qui s'est dit avant lui, non. Mais... comme la marée, si je peux prendre cette image. Il envahit comme ça l'espace de la philosophie et rien ne lui résiste parce que c'est tellement vrai, tellement profond.
Alors peut-être, vous l'avez dit dans la première partie, hein, mais on se demande toujours ce qui fait que tout d'un coup un philosophe déploie une pensée aussi originale. Et donc, vous me disiez en préparant l'émission qu'évidemment c'est probablement dans son expérience de l'horreur absolue qui est le nazisme, et entre autres cette expérience de captivité, qu'il a peut-être eu cette intuition philosophique si importante. Il y a comme un paradoxe apparent, parce qu'il a quand même fait l'expérience du mal. Alors, il n'était pas en camp de concentration, mais quand même d'un mal assez radical. Et donc l'autre aurait pu être l'ennemi par excellence, et il aurait pu développer une pensée qui ne soit pas une forme d'étonnement devant ce mystère qu'est l'autre, et puis de primauté justement de la, j'allais dire, de la sacralité de la relation, mais peut-être pas de la sacralité de la relation, mais en tout cas de la responsabilité qu'on a dans la relation. Comment faire un peu écho entre sa vie et cette philosophie ?
Eh bien, c'est assez simple. Cette ouverture dont nous parlons depuis tout à l'heure, cette énigme, cette question qu'est l'autre, elle a la forme d'une blessure. Ce n'est pas, j'ai employé tout à l'heure le mot de devoir, n'est-ce pas ? Je me dois à l'autre, on a dit noblesse oblige, mais ce n'est pas sous la forme ou sur le registre de l'obligation morale, voyez, que se déploie sa philosophie éthique. C'est pas tu dois, ni même tu te dois, mais c'est quelque chose comme la vulnérabilité de l'autre, c'est cela qui m'oblige vis-à-vis de lui. c'est parce que le visage dont on va reparler est tellement nu, tellement exposé, tellement facile à blesser, que je lui dois le respect, mais comme à quelque chose d'à la fois précieux et fragile. Et vous devinez ici ce que l'expérience et la souffrance de la guerre, effectivement, ont pu donner à Lévinas comme motif et occasion de penser la fragilité humaine. Voilà, c'est une pensée de la fragilité. Là aussi, ça ne fait pas spécialement partie de son vocabulaire, mais ça éclaire, je crois, ce que nous essayons de dire de lui. L'autre, et le visage en particulier de l'autre, disait Lévinas, c'est ce qui me dit « tu ne tueras pas ». Je ne peux pas tuer de sang-froid quelqu'un qui me regarde. Et on dit que s'il est condamné à mort...
À condition que je le regarde vraiment.
C'est ça, bien sûr. On dit que si on bandait les yeux des condamnés à mort sur le poteau d'exécution, n'est-ce pas, c'était pas pour les empêcher, eux, de voir leur bourreau, mais surtout pour empêcher leur bourreau de voir leur regard. On peut tirer sur une cible objective, si vous voulez, devenue un objet, mais très difficilement, sur quelqu'un qui vous regarde. J'ai une anecdote, enfin c'est beaucoup plus que ça, et que je tiens de quelqu'un qui en est peut-être même l'auteur, mais qui le racontait comme venant de quelqu'un d'autre. Jean Gosse, qui fut un pacifiste et militant non-violent, qui a subi aussi les camps de concentration, se trouvait dans un camp dont... un des soldats, un des gardes, avait l'habitude, chaque matin, de choisir parmi les prisonniers qu'il mettait en rang devant lui, au hasard, une victime à qui qu'il bourrait de coups. Et donc, un matin, on fait l'appel, les prisonniers se rassemblent, et puis un homme sort du rang et va droit vers le soldat en question et lui dit « Ce matin, c'est moi que vous allez frapper ». Et l'autre lui regarde avec morgue, avec haine, lui dit « Mais pourquoi toi? Je fais ce que je veux. » Non, il dit « C'est moi que vous allez frapper. » Et l'autre a baissé le regard et n'a plus jamais fait ce qu'il faisait. Je ne veux pas, comment dire, sous-entendre que ces situations où ces défis marchent à tous les coups, n'est-ce pas? Il aurait pu très bien se faire exécuter sur place. Mais dans ce cas précis, je crois qu'il a éveillé en l'autre ce sens de l'humain qui n'était pas complètement annihilé. Et bien, ce sont des expériences comme celle-là, sans doute aussi, qui ont donné à penser à Lévinas. L'autre comme, non pas objet de devoir moral sous le signe d'un commandement, mais comme invitation et pour ainsi dire comme interdit du meurtre, non pas parce que c'est écrit sur des tables de pierre, mais parce que son visage me le dit. Tu ne tueras pas.
Alors, à propos du visage, est-ce que vous pouvez développer un petit peu, même si vous venez de le faire, hein, mais donc, il développe, je ne sais pas s'il développe une pensée du visage, mais en tout cas, il insiste beaucoup sur le visage, et ça fait écho à ce que moi j'avais pu lire de Saint Jean-Paul II, qui disait, je crois, dans la théologie du corps, que, c'est probablement pas le premier à l'avoir dit, hein, mais que le visage, c'est comme un peu le reflet de l'âme, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on peut voir l'âme de quelqu'un, ben c'est pas en regardant ses mains ou ses pieds, c'est d'abord en regardant aussi son visage, en fait, où on voit une expression particulière, unique, presque une histoire parfois sur un visage.
Une icône, ouais. Dirait-on aussi, n'est-ce pas? Et c'est pas pour rien que les saints sont représentés dans leur visage et sont caractérisés grâce à ce visage. Ceci dit, il y a peut-être quelques malentendus à écarter. Il ne s'agit pas du tout d'une contemplation esthétique du visage, n'est-ce pas, de sa beauté, de ce qu'il aurait de plus ou moins agréable ou bien proportionné ou quelque chose de cet ordre. Ça traverse l'éthique ici traverse complètement l'esthétique. On pourrait même dire qu'elle va à rebours d'un certain esthétisme, parce que le visage blessé, comme nous venons de le dire, invite encore plus au respect, hein, Et à l'inverse, je dirais qu'un visage ultra maquillé n'est plus tout à fait un visage, mais un masque. Donc, il s'agit de la vérité et de la nudité du visage en tant que cette nudité laisse transparaître quelque chose ou quelqu'un de plus profond. On n'est pas dans le registre de l'apparence, n'est-ce pas ?
Mais qu'est-ce que Lévinas dit de singulier sur le visage ? Parce que si déjà ça faisait partie de la pensée chrétienne, alors lui c'est pas un penseur chrétien, mais quel est son accent particulier peut-être sur le visage
ou... Alors, il ne le pense pas dans un tout. Il ne le pense pas à partir d'autre chose.
Il commence par ça, d'une certaine manière,
c'est ça ? Tout à fait. Mmh. Voilà, c'est l'originalité et la singularité. C'est que il est comme, je disais tout à l'heure, aspiré, attiré, et en même temps tenu en respect par ce regard, ce visage, cette humanité, cette distance et cette proximité à la fois, parce que pour voir un visage, il faut pas s'en approcher de trop près, n'est-ce pas ? Il faut un petit peu s'en éloigner. Et plus je disais que regarder le visage comme un objet, il s'agit de le regarder comme un non-objet. Lévinas disait, mais regarder un visage, c'est ne même plus voir la couleur des yeux de celui qu'on regarde. C'est-à-dire, c'est pas s'attacher à des détails ou à des apparences. On est plutôt sur le registre de l'apparition que de l'apparence, de l'épiphanie, de la manifestation. Le visage me dit quelque chose. Ça n'est pas moi qui en parle. La philosophie de Lévinas n'est pas un discours sur le visage. Vous voyez ? Elle est une écoute, comme on l'a dit, une attention à ce que dit le visage. Et ça, c'est nouveau.
Merci Daniel Vigne de nous aider à rentrer dans cette pensée complexe de manière aussi didactique. On va faire une deuxième pause musicale et puis après, on va voir quelques autres singularités de la pensée de ce philosophe.
Radio Présence dans le Luchonnet, 94 FM. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc à la découverte d'Emmanuel Lévinas, avec, si vous nous prenez en cours de route, Daniel Vigne, agrégé docteur en philosophie, professeur de théologie à l'Institut catholique de Toulouse et diacre. Alors, Daniel, quelques éléments encore sur la pensée de ce philosophe. Vous l'y insistez sur la responsabilité. Alors, je vais vous dire ce que j'en ai compris. Et donc, la pensée de, de ce penseur chrétien, mais non, de ce penseur juif, c'est donc que de placer au cœur de la philosophie, en fait, l'énigme de la rencontre de l'autre, ou l'énigme de sa présence comme le mystère de l'autre, et du coup, une philosophie qui est d'abord basée sur l'éthique de cette relation, c'est-à-dire l'attention que l'on doit en fait à cet autre, et particulièrement qui se manifeste dans, dans le visage. Alors vous dites, vous avez insisté lourdement sur... vous avez commencé d'insister sur la responsabilité du coup que ça, la conséquence que ça a, c'est que chacun porte une grande responsabilité en fait dans la relation. Et je citerai pour ça donc une phrase des frères Karamazov de Dostoïevski : nous sommes tous coupables de tout et de tous devant tous, et moi plus que les autres. Et voilà l'explication que j'ai trouvée qui, je crois, est d'Emmanuel Lévinas. Non pas à cause, nous ne sommes pas responsables à cause de telle ou telle culpabilité effectivement mienne, à cause des fautes que j'aurais commises, mais parce que je suis responsable d'une responsabilité totale qui répond de toutes les autres, de tout chez les autres et même de leur responsabilité. Le moi a toujours une responsabilité plus grande que toutes les autres. Mmh. Alors, comment comprendre cette
Alors,
courte
la traduction de la phrase de Dostoïevski utilisant le mot coupable et discutable, d'autres traductions emploient le mot responsable. Chacun est responsable de tout, devant tous, et moi plus que les autres. Pour comprendre, il faut tout simplement être attentif au, au sens, à l'étymologie du mot responsable. Ça vient d'un verbe qui veut dire répondre. Être responsable, c'est répondre. On dit en français d'ailleurs répondre de mes actes, hein. C'est ça, être responsable. Mais c'est aussi, pour Lévinas plus précisément, répondre à l'autre. Répondre à l'autre en tant qu'il est, nous l'avons dit tout à l'heure, un appel, une interpellation de mon être. Je ne peux pas, face à l'autre, en aucune façon, me replier sur mon ego, n'est-ce pas, ou même sur ma responsabilité au sens privatif du terme, parce que si je fais ça, je suis en dehors de l'éthique, je suis en dehors de la relation éthique.
C'est pourtant ce qu'on fait très souvent.
Très souvent, oui. En considérant
avant tout... Parce que là, il y a comme une primauté de l'autre, en fait, sur moi, vous entendez.
Et bien sûr. Un exemple
ce qui est pas du tout le mouvement
tout
naturel
simple
de...
qu'on peut prendre, n'est-ce pas ? Vous voyez quelqu'un en train d'assassiner son prochain, vous pouvez dire mais je suis innocent. Je suis innocent, c'est lui qui le fait. Mais non, je suis coupable si je ne l'empêche pas de se rendre coupable de meurtre.
Et dans un exemple plus quotidien, ça donnerait quoi ?
Vous venez de lire une phrase qui est très importante, qui est très intéressante. Je suis responsable aussi de la responsabilité de l'autre.
Ça va loin quand même.
Ça va très loin. De fait, je ne suis pas seulement responsable de ma relation à l'autre, mais aussi de la relation de l'autre à cet autre, au deuxième degré, si je puis dire, hein, ou au pluriel d'ailleurs, à tous ces autres. Et on voit ici comment l'expérience qu'on a bien analysée ensemble du face-à-face avec autrui s'ouvre en... relation au pluriel.
Alors ça veut dire, si on doit essayer de comprendre un peu plus, c'est-à-dire que dans mes relations, on va dire quotidiennes, que ça soit familiale, amicale, de travail, tous les gens en fait qui m'est donné de croiser, Emmanuel Lévinas en fait aide à avoir cette attention en fait quelque part à ce mystère qu'est l'autre,
à chacun,
à prendre conscience que c'est un mystère.
Tout à fait.
Voilà, à pas vouloir mettre la main sur lui, donc à sentir responsable de la relation.
Oui.
Mais donc plus que ça, à se sentir aussi quelque part responsable de l'autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement en fait, ou qu'est-ce que Emmanuel Lévinas en dit ?
Il y a une belle expérience, il y a une belle illustration, je crois, de ce qu'on est en train de dire. C'est l'expérience de la paternité. un père regarde son fils, une mère, sa fille, enfin des parents regardent leurs enfants avec, je crois, quelque chose qui rejoint profondément ce que Lévinas essaye de nous dire. Un enfant, il est autre. Il nous échappera. On ne peut pas le façonner à notre image. Nous allons le découvrir. Il va grandir, germer, s'épanouir de manière tout à fait unique et originale. Et en même temps, en tant que parent, j'ai à orienter cette singularité, cette unicité de mon enfant, en sorte que lui-même se sente, soit capable d'être responsable, c'est-à-dire peut-être d'être père ou mère à son tour, d'être capable d'être attentif à d'autres. Sinon, et c'est quelquefois une expérience tragique, n'est-ce pas ? Eh ben, je suis dans une relation pseudo-éducative, pseudo-parentale, dans laquelle je respecte mes enfants, c'est-à-dire je les abandonne à leurs caprices et je les rends irresponsables. Donc ma responsabilité consiste en tant que père ou mère à éveiller chez mon enfant le sens de la responsabilité à l'égard d'autrui. Vous voyez comment ça n'est pas privatif, ce n'est pas un simple face-à-face, c'est communicatif si je puis dire. Et donc à l'horizon de cette philosophie de l'autre singulier, unique, il y a aussi les autres. Et c'est la dimension éthique au sens le plus large et même un peu politique. C'est un horizon que la philosophie d'Evinas ouvre sans vraiment l'avoir traité. C'est parfois un reproche qu'on lui a fait, ou disons une limite qu'on a tracée. On dit oui, mais et comment gérer, à partir de cette intuition qui est magnifique, la pluralité des hommes ? Vous voyez, quand on n'est pas deux, mais trois, mais dix, mais 100 000, comment en même temps ne pas contenter tout le monde ? Parce que forcément, quand on est 100 000, et déjà quand on est quelques-uns, certains sont frustrés. On fait pas, certains ne se sentent pas tout à fait respectés, dirons-nous. Et c'est l'énigme de ce qu'on appelle le tiers, c'est-à-dire qu'entre l'autre et moi s'interpose parfois quelqu'un qui n'est ni l'autre ni moi, et qui pourtant a droit de cité, si je puis dire, et à qui l'autre et moi devons certaines choses, quand bien même il s'interpose entre moi et l'autre, ou brouille notre relation.
Alors, je vois que le temps passe, et je voulais quand même parler d'une dernière chose avec vous. Vous insistiez en préparant l'émission sur l'importance de l'existant, voilà le terme d'existant. Alors après-guerre, donc on va dire en France, le philosophe qui a eu le plus grande audience, c'est donc Jean-Paul Sartre. Et Jean-Paul Sartre, pardon, je résume très très grossièrement, mais son grand postulat, c'est donc l'existence précède l'essence. Peut-être que vous allez pouvoir réexpliquer ce que ça veut dire, et puis expliquer comment Emmanuel Lévinas s'est positionné un peu par rapport à cette pensée dont on vit aujourd'hui encore les conséquences dans notre société.
Alors l'existence précède l'essence, phrase célèbre de Sartre, voulait être elle aussi une sorte de coup de tonnerre dans le ciel philosophique, parce qu'on partait toujours de l'essence, c'est-à-dire de l'être, comme on disait tout à l'heure, et puis ensuite on essayait de penser l'existence, c'est-à-dire la façon dont cet être, vous, moi, chaque être, se déploie dans le temps, dans ses choix, etc. Et Sartre dit non, avant tout, c'est l'existence. Ça veut dire, je ne suis pas quelque chose de prédéterminé, quelque chose de tout fait. Je ne suis rien, d'une certaine façon. Je suis ce que je me fais, ce que je veux être. La philosophie de Sartre étant une philosophie qui exalte la liberté, le choix par soi-même, de se faire soi-même tel qu'on veut être soi-même. Bon.
Vous pouvez dire les conséquences que ça a aujourd'hui encore, peut-être dans notre manière de penser.
Évidemment, ça souffle sur le feu d'un certain individualisme. L'existence pensée à la manière de Sartre, c'est mon existence. Hein ? Un des synonymes de l'existence sartrienne, c'est ce qu'il appelle le pour-soi. Pour-soi, pour moi. Non seulement au sens du pour-moi, c'est-à-dire tel que je me vois moi-même, mais aussi pour moi, c'est-à-dire me prenant pour mon propre but.
Il n'y a rien au-dessus de moi ou rien qui me précède.
Rien au-dessus, rien en dehors. Et ce qui est en dehors ou à côté, par exemple l'autre, est une menace. L'enfer, c'est les autres. Cette trop célèbre phrase, elle est malheureusement révélatrice. C'est-à-dire que l'autre, c'est celui, pour Sartre, qui, par son regard, peut me réduire à l'état d'objet. Tout autre, si j'ose dire, est la perspective de Lévinas, puisque l'autre est justement celui vers qui je suis décentré, appelé. Et donc, il faut passer, c'est le titre de ce livre paru en 1947 de Lévinas, de l'existence à l'existant.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
De l'existence, c'est-à-dire de mon existence, hein, de cette façon de centrer tout sur mes choix, ma liberté, mon bonheur, on pourrait dire, à l'existant, c'est-à-dire celui qui existe en face de moi, qui existe, hein, étymologiquement, qui se tient ex, au dehors de moi, qui ne m'appartient pas. Et c'est devant lui que moi, je dois me tenir. Non seulement je ne le prends pas comme un objet de plaisir ou de profit ou de quelconque instrumentalisation, quelconque façon de l'instrumentaliser, mais je suis à son service. Lévinas disait, et on pourrait presque finir là-dessus, n'est-ce pas, toute l'éthique tient dans cette formule qu'on dit quelquefois, n'est-ce pas, à l'entrée d'une maison ou devant une porte.
Ah, c'est de lui ça, parce que j'ai souvent entendu ça, oui.
Après vous.
Après vous.
Après vous. cet effacement qui est digne, n'est-ce pas, qui n'est pas servile, qui n'est pas une façon de se nier, qui est noble, mais qui consiste à valoriser la noblesse de l'autre. Après vous. Et vous voyez qu'on est bien au-delà du sens peut-être un peu écrasant qu'aurait la formule de Dostoïevski qu'on a lu tout à l'heure, si on la lit dans le sens de la culpabilité. Je n'ai pas à m'accuser, ni même à m'excuser, n'est-ce pas ? C'est-à-dire à me retirer de la relation. Non, j'ai à m'y impliquer, mais dans cette primauté que je dois toujours à l'autre, et qui en même temps, bien sûr, doit le respecter en sorte de l'empêcher d'être inhumain. Vous comprenez bien que cette exigence éthique ne consiste pas à dire à l'autre « fais ce que tu veux, de toute façon je suis, pour ainsi dire, une carpette sur laquelle tu peux marcher ». C'est tout le contraire. Il s'agit de l'inviter, et quelquefois par la force du regard, à être homme. Et à l'être en respectant l'autre homme.
Voilà, merci beaucoup Daniel Vigne de nous avoir aidé à rentrer dans la pensée complexe, mais avec vous beaucoup plus simple, de ce philosophe Emmanuel Lévinas. Alors vous tenez à ce que l'on cite deux titres d'ouvrage pour finir, peut-être le plus grand public, vous dites que c'est un livre d'entretien avec lui qui est plus accessible que ses ouvrages philosophiques, Éthique et Infini, en livre de poche, Éthique et Infini de Emmanuel
Lévinas.
C'est
une interview. Donc il ne l'a pas écrite, il l'a dite, cette petite œuvre très lisible.
Voilà, donc Éthique et Infini en poche. Et puis pour ceux qui sont, beaucoup plus intello, Emmanuel Lévinas et la pensée de l'infini, ce sont les actes d'un colloque qui s'est tenu à l'Institut catholique de Toulouse en 2011, c'est ça ?
C'est cela.
Voilà, merci beaucoup Daniel Vigne. À bientôt.
Merci.
Cette émission a été réalisée par Christophe Auvry, où vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Ou par mail à contact@radioprésence.com.